Bonjour, bienvenue pour cette table ronde autour de l'histoire du vaisseau spatial qui est crashé en plein milieu des Utopiales, à savoir donc l'anniversaire des 20 ans de le label Série B, donc aux éditions Delcourt. Donc nous avons sur scène un petit florilège des auteurs et dessinateurs donc de la série B. Donc nous avons Fred Blanchard qui est le maître d'orchestre de tout ceci, Jean-Pierre Pecot, Fred Duval et Monsieur Calvez, donc qui vont nous parler chacun de leur Monsieur Calvez, qui vont nous parler de leur travail. Alors je crois qu'on a échappé au pire parce que combien on serait sur scène en fait si toute la bande était là?
On serait plus nombreux que dans la salle.
Plus nombreux que dans la salle.
Beaucoup plus.
Ah oui, donc je croyais que c'était une petite entreprise familiale, mais non, finalement, c'est quand même la grosse industrie.
Non, c'est la grosse entreprise. Non, c'est, il doit y avoir quoi, à peu près 30-40 personnes qui travaillent sur divers albums du label. Bon, il y a des auteurs qui vont, qui viennent, hein, forcément, suivant les collaborations, mais oui, il y a une pool d'à peu près 30-40 personnes, si on compte les coloristes, les gens qui viennent filer un petit coup de main sur le design, voilà.
Alors la preuve, je voulais pas passer la parole en premier à Fred Blanchard, mais vous voyez comme il est,
hein, il l'apprend tout le temps.
Mais donc je voulais en premier une première question. en fait au scénariste qui, comme chacun le sait, quelle que soit une bande dessinée, même si je minimise pas le travail des dessinateurs, mais une bande dessinée c'est avant tout une bonne histoire. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'aventure de série B en fait? Et comment ça s'est passé? Les premiers.
Je crois que tous les deux, on est du tout début, c'est-à-dire de la première année, de la naissance de série B. Fred en parlera mieux que moi, mais il a une antériorité sur moi puisqu'il connaissait avant Blanchard et Vatine, puisqu'il a travaillé avant sur d'autres projets. Moi, je suis arrivé un peu par hasard.
T'as dit Vatine une fois déjà.
On avait dit qu'on faisait un concours, c'est lui qui disait le plus de fois Vatine, donc un pour moi.
Deux pour moi, Vatine.
Non, moi je suis arrivé un peu par hasard à la bande dessinée il y a une vingtaine d'années, chez Delcourt un peu par hasard aussi, et c'est Guy Delcourt qui m'a présenté Fred Blanchard et Olivier Vatine. À l'époque, ils étaient en manque de scénaristes sur une série qui s'appelait Nash, et ils avaient un dessinateur et ils n'avaient pas de scénariste, et ils m'ont demandé de participer. C'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe au tout début. Alors Fred a une autre histoire, lui.
Oui, un petit peu antérieure, parce qu'en fait moi j'ai commencé avec un album qui s'appelait 500 fusils et qui était une espèce de pré-série B, puisque c'est un album où Olivier faisait du suivi éditorial bénévole en fait. Donc Fred en même temps, Fred Blanchard avait participé à Quoi Blue 4, donc c'est une période où on s'est tous rencontrés en fait il y a 20-25 ans. Et on va dire au début des années 90. Et donc tout ça tournait autour d'un studio de dessin animé aussi, où il y a eu Didier Casgrain, où il y a eu Virginie Augustin, il y a eu un tas de gens qui pendant toutes ces années 90 ont travaillé. Et donc l'idée du label, quand Olivier et Fred l'ont vraiment lancé, moi j'étais déjà dans la bande en fait, puisque j'étais déjà chez Delcourt. Donc on a tous les trois, Olivier, Fred et moi, un soir établi les bases d'une série. C'était, je pense, en 1993, si ma mémoire est bonne. Ça s'appelait Carmen McCallum, en fait. Voilà, ouais. Et donc, on a appelé Jess dans la foulée, qui a donné son accord, et nous, on s'est mis à bosser. Donc, en fait, Fred, dès le départ, Fred Blanchard, a participé à l'établissement graphique de la série, notamment de création, de développement de tous les véhicules, tous les vaisseaux, etc., nécessaires. Donc, l'esprit de développer série B en tant que label, avec des éditeurs finalement qui mettaient la main à la pâte, c'était l'idée de base, de départ, et je crois qu'il est resté, même après avec les évolutions de gens dans le label. Mais bon voilà, donc le départ c'est ça. Pour moi, c'était pas comme Jean-Pierre par hasard, c'est vraiment une rencontre, une volonté depuis tout gamin d'écrire des scénarios de bande dessinée. Et donc dans la ville de Rouen où j'ai grandi, la rencontre avec Kaito, Vatine, qui étaient les créateurs d'Aqua Blue et qui sont devenus des potes en 1986 en fait.
Et alors, tu parles de Carmen. Carmen McCallum, on en a à combien, en fait de...
Bah là, on va avec Mathieu, donc, qui a repris la série au tome 9. On attaque le 16e. 16e album en 20 ans. Donc 15 de paru. Voilà.
Et alors, petite question béotienne, pourquoi Jess a arrêté ?
Parce qu'il voulait passer à autre chose, tout simplement. Donc, on s'était mis d'accord que si un jour il voulait passer à autre chose, il me préviendrait. Il m'a prévenu avant la fin d'un cycle. Voilà, que ça m'a laissé un an et demi pour trouver un successeur. Et je proposais à Mathieu.
D'accord, voilà. Ça c'est venu donc du scénariste, en fait, le choix du prochain dessinateur. Ou est-ce que ça a été une concertation ? Par exemple, c'est des choses que vous faites en concertation, ou est-ce que c'est un choix
c'est
qu'il a imposé ?
Trouvé,
c'est
une bonne
question. Hein
en l'occurrence, c'est moi qui ai proposé Mathieu.
Il t'a payé
Ouais, bien sûr. Mais ça aurait pu tout à fait venir de l'éditeur. Enfin, là, il n'y a pas de règle. C'est comme ça. On se rencontre, on fait des projets.
Ouais. Parce que depuis le début, en fait, tu évoquais les débuts tout à l'heure. À l'époque, on était très jeunes, sauf Jean-Pierre qui est un peu plus vieux que nous. Mais on commençait tous. Donc l'idée, c'était vraiment se tenir les coudes au maximum et puis essayer d'être des co-auteurs multitâches. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment du temps où on faisait aussi du dessin animé en parallèle ou du jeu de rôle pour Jean-Pierre. Quand on a cherché à bâtir ce label, qui est quand même, voilà, c'est une mini-collection au sein des éditions Delcourt, on a aussi, malgré nous, ou peut-être parce qu'on le cherche inconsciemment, conçu une communauté d'esprit où on s'est dit vraiment, avançons ensemble, de front, épaule contre épaule, soutenons-nous au maximum. Et pour le coup, il n'y a pas trop eu de lutte d'ego dès le départ sur le label. Voilà, donc... Pour ce qui est de ramener des auteurs dans des séries ou de passer le témoin, on essaie d'être le plus pragmatique possible et de rester à l'écoute de talents émergents dans le cas des mêmes à l'époque ou aller draguer des fois des auteurs un peu plus établis pour leur permettre de développer des séries au sein du label.
Alors, excuse-moi par avance, mais vu que tu parles de lutte d'ego, je suis quand même un tout petit peu obligé de reparler de Olivier Vatine. Et lorsqu'on est deux à la tête d'une série pour monter imposer un label, disons, imposer une esthétique, imposer une marque de fabrique, à un moment donné, quand il y en a un des deux qui souhaite arrêter, quelles que soient les circonstances, est-ce que ça a pu marquer la fin de la série B ? Est-ce que ça a pu arrêter la série, ou est-ce que ça a été... fluide et qu'il n'y a pas eu de problème, disons, pour continuer tout seul déjà aussi, et puis savoir si vous, vis-à-vis des collaborateurs, est-ce que ça a changé quelque chose du coup
de... Ah, de toute façon, c'est une aventure humaine en même temps. Quand on a commencé, on voulait tous prouver qu'on avait raison. On avait une vision de ce qu'on voulait faire et on voulait l'imposer au public parce qu'on avait envie de développer des histoires de genre qui étaient plus dans la tradition de ce qu'on avait pu connaître dans les années 70 au travers du journal Pilote, où il y avait vraiment des scénaristes vraiment forts, vraiment talentueux, à la tête de plusieurs séries vraiment grand public et puis qui avaient beaucoup de succès. Donc on voulait vraiment en revenir à ce genre de fondamentaux. Donc forcément, on se serrait vraiment les coudes. Il y avait vraiment une communauté d'esprit qui était à l'œuvre. Et puis, comme dans toutes ces histoires humaines, 10 ans passant, certaines divergences se sont fait jour. Et puis, c'est arrivé à plein de gens. C'est arrivé à des groupes de rock, c'est arrivé à des scénaristes, de cinéma. Je pense notamment à Dan O'Bannon et John Carpenter qui venaient de la même école de cinéma, qui ont bâti leur premier projet Dark Star ensemble. Et puis, petit à petit, sur 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Chacun évolue différemment. Et puis, il arrive un moment où on peut parler peut-être de crise d'ego dans certains aspects du problème, mais c'est plus des envies complètement divergentes qui ont commencé à se faire jour petit à petit. Et pour ce qui est du départ de Vatine, oui, à un moment donné, il a eu envie de renverser la table et partir. Et voilà, je pense que ça a été le signal d'un renouveau parce que au lieu de se retrouver avec une entité bicéphale qui, des fois, tirait à eux et à Dia sur la direction du label, on a une vision beaucoup plus claire, forcément, vu qu'elle est partie dans une seule direction. Et à ce niveau-là, je me dis que c'est logique que ce départ soit arrivé à ce moment-là. 10 ans, c'est quand même pas rien. 10 ans de travail éditorial ou de travail tout court, main dans la main, tous les jours. Voilà, il y avait un premier bilan en tiré. D'ailleurs, on est en train de tirer une sorte de bilan équivalent à l'occasion de ces 20 ans, mais là, ça se passe plus dans ma tête vu que je suis tout seul. Mais il y a des espèces de bornes, des étapes qui marquent aussi un moment où il faut tirer les conséquences, faire un petit bilan de ce qui s'est passé et voir comment on peut continuer à évoluer ensemble. Il se trouve que des fois, ça occasionne des départs, mais ça fait partie de toutes les aventures humaines dans divers domaines créatifs qu'on peut expérimenter tous les jours.
Et alors pour les dessinateurs, donc Florent Calvez et même, donc ça s'est passé comment pour votre arrivée? Donc on a vu un petit peu pour la succession concernant Carmen McCallum. Tu peux nous parler par exemple par rapport à ton propre parcours, Florent ou MM, par rapport à vos démarrages en bande dessinée, l'arrivée de série B.
J'avais fait, avant de reprendre Carmen, j'avais fait une série chez Delcourt aussi, qui n'était pas chez série B. Et du coup, je regardais un petit peu le label de loin. Ça m'intéressait énormément. C'est principalement pour la SF. Donc je regardais ça un petit peu avec de l'envie. Et je suis arrivé, moi, dans série B au moment où Olivier Vatine s'en allait. Donc j'ai pas connu cette époque-là et je n'ai de référence que Fred Blanchard avec qui s'occupe de me chapeauter à l'époque et encore maintenant, donc de me permettre de continuer mon cheminement, mon émergence, parce que j'étais débutant. Je considère toujours que j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc ça me permet de voilà, donc j'ai pas de référence à l'ancien temps. J'espère être encore là pour les 10 ans à venir. Mais...
Et du point de vue graphique, le fait de travailler comme ça dans un label bien déterminé en termes d'esthétique, en termes de choix éditoriaux, en termes d'homogénéité de la collection, au niveau graphique, est-ce que ça t'a obligé à passer à autre chose ou est-ce que c'était vraiment un style que tu avais déjà au départ ou est-ce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui? Par exemple, est-ce que tu as d'autres envies graphiques mais que tu ne peux pas exprimer dans série B? Ça, c'est pas le procès de la série. Hein,
c'est un peu particulier parce que Carmen McCallum, il y avait déjà un univers graphique qui était établi avec une ambiance, des designs, des décors quand même bien particuliers. Donc je travaille sur mon 8e album et j'ai essayé de faire glisser tout doucement cet univers graphique vers quelque chose de plus actuel, le design un peu moins années 90, essayer d'apporter tout doucement. C'était un petit peu délicat au début, parce que je devais quand même me conformer, essayer d'être respectueux de ce qui avait été établi. Donc voilà, c'était un travail sur le long terme, accompagné, et c'est vrai que ça m'a appris la rigueur des décors, des recherches, de l'élaboration de design, de choses comme ça. J'avais pas ce suivi là auparavant sur la précédente série, et ça m'a permis un peu de passer un petit cran au-dessus. J'essaye toujours de grappiller un petit peu pour m'améliorer, mais voilà, on est bien suivi.
Fred. Non, la reprise par MM de Carmen McCallum, c'était un moment intéressant aussi pour le scénariste, parce que il ne dessine pas du tout comme Jess en réalité, pas du tout le même style. Voire on pourrait dire que Jess est plutôt un dessin semi-réaliste presque, qui tire vers le semi-réalisme, parce que Mathieu, au contraire, va plutôt vers un hyper-réalisme. Donc moi, je lui ai dit au départ. Tu respectes l'univers graphique de la série, mais tu te l'appropries le plus vite possible. Ça a pris un bouquin, deux bouquins, mais le but, c'était de surtout pas faire croire au lecteur que le dessinateur était le même. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, finalement, à changer de dessinateur, à la preuve, on en a fait autant, là, on a fait 8, c'était que, pour moi, c'était de travailler quelqu'un de nouveau, et donc de réfléchir, parce que quand on écrit et qu'on a la chance de savoir qui va dessiner l'histoire avant, on réfléchit au trait, forcément, on écrit en fonction du trait. C'était un nouveau départ pour la série, et Mathieu, moi j'ai estimé qu'il était vachement bien placé pour ça, et puis voilà. Mais
Et à quel moment s'arrête le travail de scénariste, en fait? Est-ce que chaque scénariste de la série travaille un petit peu de la même manière, ou est-ce que l'un va travailler, par exemple, jusqu'au storyboard, ou l'autre s'arrête juste à trois lignes et puis une tête à Toto, quoi?
Je réponds.
Par exemple.
Non, je crois qu'on a chacun... Enfin, avec Jean-Pierre, on coécrit, donc c'est encore autre chose. Mais non, les scénaristes, chacun a sa manière de bosser. Je sais pas trop. Moi, je sais que je refuserais de faire du storyboard. D'une part, je suis pas trop capable de le faire. Mais quand bien même on me le demanderait, je le ferais pas. Parce que j'estime que c'est au dessinateur de faire la mise en page, de faire... Bon, par contre, oui, il y a un certain respect du rythme proposé, et puis voilà, bon, c'est une collaboration. Je pense que là, c'est pas... c'est un peu de la cuisine interne, on a chacun... On s'adapte, non pas en fonction d'un des deux, mais des deux, de la manière de travailler ensemble. Je travaille pas de la même manière avec Florent qu'avec Mathieu. Ne serait-ce que parce qu'ils ont des personnalités différentes, les sujets sont pas les mêmes, voilà.
Et le dessinateur a un retour aussi, par exemple, à un moment donné, peut-être sur le scénario ou autre. Il y a des choses comme ça aussi, des interactions entre le scénariste et le dessinateur.
Parfois, ça arrive. Disons que le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvé à faire quasiment que de l'historique. À la base, moi, j'ai aucune formation d'historien, mais il se trouve que avec Internet, il est désormais facile d'avoir de la documentation, de se former, quoi, en fait. Et notre boulot en général fait qu'on est plutôt curieux, de fait, pour la recherche des décors, des personnages, des costumes, de tout ce qu'on veut, mais aussi de la véracité historique. Si bien que si on a un lieu, par exemple, à traiter, on va essayer de chercher le maximum de docs possible pour pas se tromper, quoi. Si bien que on amasse pas mal d'informations qui peuvent éventuellement contredire ou modifier un tout petit peu certains éléments du scénario. Alors évidemment, quand on est scénariste et quand on amasse de la doc, évidemment, on fait remonter vers le scénariste, on discute et on voit si on reste sur la première version, si on modifie, si on...
Et lorsque vous travaillez à deux, donc entre un scénariste et un dessinateur, j'imagine que Fred Blanchard aussi a son mot à dire sur l'évolution de l'album, sur le travail en progression. Du coup, ça prend combien de temps, un album de série B? Est-ce que c'est commun un petit peu à toutes les productions de série B, ou est-ce que vraiment il y a des dessinateurs ou un couple de scénaristes-dessinateurs qui enfoncent les délais et qui mettent les cheveux blancs à Fred, ou est-ce que c'est un petit peu homogène, en fait, sur le suivi des albums?
Non, il y a autant de délais que d'albums ou que de séries. On a des albums qui sont faits en 2 mois et on a des albums qui sont faits en 2 ans. C'est tout le temps, effectivement, au final, une affaire de dessinateur. Quelques dessinateurs très très rares sont capables de faire 10 pages par mois. La plupart en font 4-5. D'autres en font moins.
Pas plus ? La moyenne, c'est quoi ?
La moyenne, c'est 4-5. La moyenne, c'est 4-5. Toi, t'es un peu plus, effectivement. Tout ça étant dit, ça n'a aucun rapport avec la valeur de la page, bien évidemment. On peut avoir un dessinateur qui va mettre 2 ans à faire un album, c'est pas pour ça que l'album sera extraordinaire, et inversement. Et donc on a autant d'exemples que de séries ou que d'albums sur les durées de fabrication. Il y a vraiment pas, c'est pas typé, ça, c'est pas possible.
Oui, et puis c'est là ce qu'on est en train d'exposer, c'est de la cuisine interne. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a autant de... Voilà, c'est comme dans tous les métiers, on tombe sur des personnalités qui ont une façon d'agir, de travailler, voilà. Et au niveau éditorial, on parlait du suivi. Moi, au niveau de mon rôle de directeur de collection, je pars du principe, parce que ce que je vais expliquer là, c'est au début du label avec Olivier Vatine, on avait tendance à être un peu trop interventionniste sur les albums. Alors effectivement, on a bâti des fois des idées d'univers comme Carmen McCallum ensemble, ou Nash au tout début, qu'écrivait Jean-Pierre. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on avait un peu trop tendance à être co-auteur, c'est-à-dire qu'on s'ingérait un peu trop, mettait un peu trop le pied dans la porte de la création, et à un moment donné, c'est allé tellement loin que sur un ou deux projets, on a presque eu l'impression de faire des albums par procuration, qu'on servait presque de nos auteurs comme d'outils pour développer des histoires qu'on n'avait pas le temps de développer. Donc après le départ de Vatine, moi j'ai vraiment eu à cœur de me dire, on avait déjà enclenché le processus de se mettre beaucoup plus en retrait, mais de me dire, fais vraiment attention à ça, sois là vraiment pour eux, mais ne te prends pas pour un auteur à leur place. Donc l'image que j'utilise maintenant communément pour expliquer mon travail quand je suis obligé de l'expliquer à des nouveaux collaborateurs, c'est leur dire, écoutez, imaginez qu'on est dans une voiture, le scénariste a la carte routière pour aller vers la direction vers laquelle vous voulez aller, le dessinateur a le volant, je suis sur le siège passager arrière, je peux de temps en temps vous donner un petit conseil pour plutôt prendre le petit chemin à droite qui permettra de prendre un raccourci, mais mon rôle, c'est ça. Ça n'est pas moi qui ai les commandes de la machine, je suis là vraiment avec un rôle assez passif, mais pour vraiment avoir un regard extérieur sur la façon dont vous allez diriger votre véhicule, donc votre projet de série.
Alors, je rebondis un peu sur ce que dit Fred, parce que c'est vrai que moi comme Duval, comme nos amis, on a travaillé avec d'autres chez d'autres éditeurs, avec d'autres directeurs de collection, et c'est vrai que Série B c'est un mode de fonctionnement quand même qui est très très particulier, que j'ai pas rencontré ailleurs moi. Dans les premiers temps, comme disait Fred, effectivement, à quasiment une surproduction au niveau de au sens producteur, hein, au sens produire un album en fait, comme on produit un album de musique en fait. Il y a pu avoir une surproduction de certains albums avec une intervention mais absolument pas forcé, absolument pas un peu obligatoire, mais dans une ambiance de création en fait qui faisait que à la fois Fred et à la fois Olivier intervenaient dans la conception de l'album, dans le dessin de l'album, et on arrivait au final avec quelque chose qui aurait dû normalement, moi je pense par exemple au premier Arcane, au tome 1 d'Arcane, cet album est tellement surproduit par Fred et par Olivier que logiquement ils auraient dû le signer aussi. Ils sont bien au-delà, ils étaient bien au-delà de leur rôle de directeur de collection. Alors après, effectivement, on a eu une évolution avec sur certains projets un retour à une production plus classique avec le directeur de collection qui fait son métier de directeur de collection et puis qui s'arrête là. On a d'autres exemples, moi je pense à Jour J ou je pense à certains autres projets qu'on a en cours où on va avoir une participation de Fred beaucoup plus importante, mais d'ailleurs maintenant t'es crédité au scénario et c'est logique en fait puisqu'il y a une intervention, d'autres moins, d'autres où on aura plus des séries classiques où il y aura effectivement Fred fera son travail de directeur de collection sans plus, mais c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement. Alors en plus nous avec une échelle, une couche supplémentaire qui a été mise ces derniers temps avec Duval, c'est qu'on a produit Jour J qui est là une coécriture des deux avec une intervention de Fred aussi, donc ça commence à être une usine à gaz de l'extérieur qui peut paraître un peu compliqué, mais finalement on est arrivé nous à un équilibre de travail assez satisfaisant, puis bon la série a l'air de fonctionner et nous ça nous plaît de l'écrire, donc en fait c'est le principal, mais on est arrivé à un mode de fonctionnement qui est assez unique dans le milieu de la bande dessinée, c'est-à-dire que là on écrit à quatre mains avec une autre paire de mains qui vient nous aider au début et qui fait quand même son travail après de directeur de collection, plus les dessinateurs qui interviennent, ça devient quelque chose d'assez complexe, effectivement, qui fonctionne pour certains sujets qui pourraient ne pas fonctionner du tout au final. Et je pense que c'est pas reproductible sur n'importe quoi. C'est très particulier.
Et alors sur les interventions de Fred Blanchard, que ce soit dans le scénario ou dans le dessin, tu parlais de recherche de documentation. Bon, je sais que Fred fait quand même beaucoup de design, beaucoup de recherche de personnages et autres pour des tas de choses. À quel moment est-ce que tu vas être sollicité par un dessinateur? Dans quel cas? En cas de difficulté pour trouver un design, pour trouver une doc, pour comment ça marche? À quel moment est-ce que toi tu interviens dans un design graphique, par exemple?
Bon, alors ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, j'essaie d'être le plus en retrait possible. Surtout qu'il y a le problème des couvertures où là,
couvertures.
On en parlera plus tard. Mais pour ce qui est de l'élaboration d'un album, mon travail consiste à accompagner un projet d'album de la signature du contrat jusqu'à la présentation de l'album fini aux représentants du diffuseur qui vont aller démarcher les libraires pour leur vendre un maximum de ces albums-là. Donc entre ces deux étapes, qui sont les deux extrêmes du processus, je suis là pour lire le scénario, faire des remarques éventuelles. Si je me mettant dans la peau du lecteur lambda, il y a certaines choses que je ne comprends pas ou qui me semblent incohérentes. Des fois, ça vire un peu au script doctor, mais vraiment dans des cas limites. Pour ce qui est du niveau dessin, je regarde les storyboards, je regarde la façon dont les pages sont dessinées, j'essaie de pointer des petites incohérences, ou étant dessinateur moi-même, des fois, si je vois qu'il y a des petits nœuds graphiques ou des choses qui me semblent un peu borderline, je préfère le dire au dessinateur, mais c'est toujours des suggestions, pareil avec les coloristes. Je ne suis pas là pour imposer ma vision des choses. À moins de partir sur une grosse catastrophe, je suis encore là, je suis toujours là avec un rôle de consultant. Hein, ça j'y tiens vraiment. Et puis pour ce qui est du reste, bon voilà, c'est vrai comme évoqué Jean-Pierre, il y a une alchimie qui se fait suivant les projets. Pour ce qui est de temps en temps sur des séries comme Jour J où je suis beaucoup plus impliqué, là j'ai carrément, en plus de mon rôle de directeur de collection, un rôle de scénariste, mais avec un contrat de scénariste. Je sépare vraiment les deux, hein, à ce moment-là. Et pour ce qui est des designs qu'on peut me demander sur certains bouquins, j'aurais plutôt tendance à demander aux dessinateurs de revoir leur copie plusieurs fois si ça me semble ne pas convenir pour certaines raisons. Si vraiment à la fin ils n'y arrivent pas, je suis prêt à donner un coup de main, mais c'est vraiment pour moi une dernière extrémité. Quand on me demande des designs, je les fais plutôt pour des séries hors série B, voire pour d'autres éditeurs. Je travaille sur Spirou, j'ai accepté deux séries pour Arleston. Là, je suis en train de travailler pour une autre série avec Fabien Bellman d'anticipation, mais je préfère essayer, au sein du label, vraiment à avoir un rôle en retrait, être là vraiment en soutien des auteurs, ne plus m'imposer comme on a pu les faire au tout début du label.
Et est-ce que les dessinateurs, du coup, en travaillant pour série B, est-ce que vous avez le temps de travailler sur d'autres productions?
Non.
Ou d'autres projets?
Non.
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 Non. Non.
Bon.
Il faut aussi. Merci que je dorme.
C'est clair, c'est concis.
Non. Non, mais alors, par rapport au rôle de Fred, y a un truc, c'est qu'avant de travailler pour série B, le truc, c'est que j'avais déjà sorti 5 albums. Moi, je n'ai aucune formation artistique ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que j'ai sorti des albums avec plein d'erreurs, plein de trucs. Bon. Et en travaillant avec Fred et aussi avec Fred, le truc, c'est que j'ai grandi, quoi. J'ai appris plein de trucs. Mais dans notre mécanisme, dans notre façon de travailler, ça se passe plutôt bien, il me semble. C'est aussi une affaire d'ego. On travaille en équipe. C'est le truc, quoi. On discute, il y a vraiment des allers-retours. Je ne suis pas persuadé que tout le monde n'est capable. Ce n'est pas une majorité d'auteurs qui serait capable de travailler dans ces conditions-là. Il faut savoir dire ouais, ok, j'ai merdé, bon, je refais, et puis voilà, quoi.
Pas les dents.
Là, même, j'irais plus loin. Je crois qu'au tout début, dans les années 90, quand le label s'est créé, il y avait aussi à la base pas qu'une envie de travailler ensemble. Il y avait une envie de monter des projets spécifiques autour de choses qui n'étaient pas forcément non plus traitées en BD. C'est-à-dire que je me souviens des premières discussions autour de Carmen. C'était quand même d'arriver à quelque chose. Qui venait de William Gibson, donc de ces contenus-là du cyberpunk, de les transcrire en BD. Et puis, en France, mine de rien, il n'y en avait pas énormément. Il y avait Morvan et Buchet qui, à travers pas Sillage, mais leur série d'avant, chez Glénat, qui avaient eu une démarche parallèle, Nomade, et on s'est rencontrés comme ça. C'est-à-dire qu'on avait eu exactement les mêmes réflexions, les mêmes, sans se connaître. C'est très drôle. Mais c'est quand même donc une époque où, avec Olivier et Fred, on a eu, et Jean-Pierre et les premiers, hein, les premiers auteurs, D'Amour, Christophe Kay, Jess, il y a eu, avant de faire le premier coup de crayon, quand même de longues soirées de discussion. C'est-à-dire que série B, c'est pas non plus une opération commerciale. Ça je tiens à le dire aujourd'hui. C'est pas du tout ça. À la base, moi, je viens vraiment d'un milieu ouvrier où, voilà, dans ma famille, personne n'avait lu un bouquin de science-fiction. Et tout d'un coup, j'ai rencontré des gars, qui avait vu les mêmes films que moi, qui avait lu les mêmes livres et qui avait un amour de la BD et envie de raconter des histoires qui correspondaient à ce que moi j'avais envie de raconter. Donc c'est pas rien non plus. C'est pas que des gens qui se sont, pour des raisons pratiques, mis à faire des bouquins ensemble. On a eu à la base, je pense, il y a pourquoi série B existe encore au bout de 20 ans, c'est qu'à la base, il y a quand même eu un socle culturel super important
Et voilà, après les choses ont évolué, des gens sont arrivés, des gens sont partis. Mais n'empêche que la base même de CRIB, c'est quand même, on en a très très peu parlé aujourd'hui, là, des contenus. Et les contenus, c'est pas que de la cuisine interne, c'est quand même des gens qui à un moment avaient des choses à raconter, et des gens comme Jess, je pense à lui, qui avait des choses à dessiner. Jess, il vient pas de nulle part non plus, on se connaissait depuis les fanzines, on avait déjà échangé, et Delcourt et CRIB ont permis à quand même une génération d'éclore, en fait. Donc, c'est pour moi, c'est le plus important.
Bien sûr. Bon, pour le contenu, on laissera découvrir à chaque fois les ouvrages. Mais tu parles de commercial. Série B, aujourd'hui, pour justement parler de cet aspect-là, Série B, c'est combien d'exemplaires vendus? Combien de pays couverts?
Oui, on a été obligé de faire un petit état des lieux du label à l'occasion des 20 ans. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait publié environ 200 albums. On avait vendu 4 millions d'exemplaires. On était traduit quand même, on est toujours traduit dans tous les pays d'Europe. Alors, à part la France et la Belgique, tous les marchés sont beaucoup plus modestes, le troisième étant le marché allemand. Mais n'empêche que c'est... voilà, on est présent partout en Europe. On commence à mettre un pied aux États-Unis par le numérique, par les possibilités offertes par le numérique. Notamment, on peut s'affranchir des formats sur le... Des problèmes de format sur le marché américain où ils ont des formats comics beaucoup plus petits avec moins de pages. Et bon, voilà.
Il y a une diffusion au Québec ?
Oui, j'imagine. Je ne m'occupe pas de tout ce genre de détails-là. Mais voilà, en quelques chiffres, c'est ça.
Et est-ce que... Et un album, par exemple, un album de série B, la moyenne des ventes, c'est quoi ?
20 000, à peu près.
20 000 exemplaires ? Voilà.
Alors, il y a des plantages comme partout, il y a des gros succès. Bah, par exemple, je crois que Jour J, qu'on a lancé il y a 5 ans, doit en être à 50 000 exemplaires du premier tome, par exemple.
Et est-ce qu'il y a des séries qui se sont arrêtées parce que ça ne vendait pas?
Bien sûr.
Oui. Oui, non, là, on n'échappe pas aux règles de la BD et d'éditorial en général.
Oui, c'est ça. On propose des univers, des projets qui, des fois, rencontrent le public, des fois, non. Je me souviens, justement, il y a 10 ans, on avait fait le constat qu'on avait lancé une génération d'auteurs, comme l'a rappelé Fred, mais tout bêtement, parce que, il n'intéressait aussi personne d'autre, et nous, on n'intéressait pas les plus vieux, donc on était obligé de se serrer les coudes et avancer ensemble. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, mais oui, là, on commence à tous être vraiment établis, reconnus, tendons la main à une nouvelle génération, et là, il y a eu une incompréhension complète, parce qu'on a essayé de partir sur des graphismes qui n'étaient pas ceux qu'on avait l'habitude de voir dans le label. Entre-temps, il y avait eu la nouvelle bande dessinée, contre laquelle on s'était un peu, pas élevé, mais on avait bâti un peu l'image du label. Et donc, on a essayé de tendre la main à des auteurs un peu nouvelles bandes dessinées ou avec des graphismes un peu différents. Et là, effectivement, on a eu un ou deux camouflés sur des histoires courtes avec des auteurs qui ont déclenché vraiment l'incompréhension de l'électorat. Et il se trouve que 10 ans après, certains d'entre eux sont reconnus. Je pense à Merwan Chaban ou je pense à Bertrand Gatignol qui a signé Petit avec Hubert et qui est nominé cette année pour le prix du meilleur album à Nantes. Donc voilà, il y a des fois aussi des questions d'opportunité, de timing, et puis un album, même s'il est pertinent dans ses thèmes, dans sa façon d'être abordé graphiquement, ne rencontrera pas forcément le public au bon moment. Donc oui, il y a des échecs réguliers au même titre que les succès qui sont récurrents, même sur les nouvelles séries.
Et alors, ta vision du marché actuel, par exemple sur l'édition, entre guillemets, la crise de l'édition, les plaintes un petit peu de libraires qui n'ont pas assez de murs.
Les libraires se plaignent toujours.
Le numérique. Ta vision un petit peu des 10 prochaines années, les 30 ans de série B, on sera où
ça aurait
évolué comment?
Alors, je pense que série B... pour l'instant, c'est un label qui est très marqué dans les premiers temps d'existence du label sur le cyberpunk, donc la science-fiction très proche de nous, qui est de la prospective à 10, 20, 30 ans. Au départ de Vatine, moi, je me rends compte que tout le travail qu'on a fait, on peut aussi le faire sur des séries historiques. Alors, on va pas forcément lancer des séries historiques comme a pu faire les éditions Glénat dans les années 80. On va dépoussiérer tout ça. On va notamment y revenir au travers de séries comme l'Histoire secrète qui vont parler d'histoire, mais au travers d'ésotérisme, ou alors on va carrément aller vers l'Uchronie. Mais voilà, en tout cas, là maintenant, on a un espèce de label qui va dans deux directions, c'est le passé et les futurs, en essayant de recréer ou de créer des mondes, soit à venir, soit passé. Et je me rends compte quand même que même si on est très bien identifié, des fois, on est quand même encore limité sur les choix qu'on peut avoir, parce qu'on a aussi des envies qui peuvent aller plus vers un mix de nouvelles bandes dessinées et de mainstream, comme peuvent le faire Fabien Nury ou Fabien Velman, en mélangeant des graphismes peut-être un peu plus pointus avec des histoires grand public. Donc là, on est en phase d'essai, et je pense que le label va bien évidemment continuer. Mais il va en partie devenir officieux, c'est-à-dire qu'il y a certaines séries qui vont, on va travailler exactement comme d'habitude, mais on va les sortir du label.
Leur indépendance.
Voilà, parce que malgré tout, on est suffisamment bien identifié pour le genre de projet qu'on va commencer à faire, déclencher encore une fois l'incompréhension du public sur certains projets. Donc, je préfère vraiment tirer les leçons du passé. Essayez de voir ce qui va se passer. Par exemple, là, on voit passer des images de certaines séries. Vous avez en avant-première les visuels que vous avez vu passer deux, trois fois déjà de nouveaux projets comme Mousquetaire, qui va être dessiné par Florent et sur un scénario de Fred Duval. Où là, on va se pencher sur le mythe presque des mousquetaires, parce que c'est presque un mythe. C'est une image d'Épinal assez joyeuse avec des soldats ripailleurs qui trouvent des péronnelles entre deux combats à l'épée avec des plumes. Et en fait, non, le postulat de base de cette série-là, ça va être et si D'Artagnan avait été le Jack Bauer de l'époque. On va se rendre compte que les mousquetaires, c'était les assassins du roi, ils étaient dans tous les coups tordus de la royauté. Voilà, et puis il va y avoir aussi une série de Jean-Pierre Pecaud qui va parler de l'histoire d'un tank qui va refléter toute la géopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est très sérieux. Dans ces projets-là, il y a de l'action quand même, mais n'empêche que sur le projet de Jean-Pierre dont je viens de parler, Cette machine tue les fascistes, on aurait gardé ça dans le label série B. Je pense qu'il y aurait eu vraiment un décalage, même dans Mousquetaire, entre le propos, entre le ton de l'album et la façon dont le label est identifié pour l'instant. Donc, le label continuera à exister, mais par moments un peu plus en pointillé que maintenant. Certains albums ne seront plus estampillés série B, même s'ils auront été réalisés de la même façon qu'on l'a toujours fait.
Alors, avant de passer à des questions dans le public, donc n'hésitez pas à réfléchir à vos questions, quelles qu'elles soient, la cuisine interne ou autre chose. Parlons un petit peu des couvertures, en fait. Parce que série B, c'est quand même, il y a vraiment une forte identité visuelle. Est-ce qu'il y a eu des dessinateurs donc de l'album eux-mêmes qui se sont sentis entre guillemets dépossédés de leur couverture? Parce que c'est vrai que faire la couverture, ça reste quand même un petit peu la cerise sur le gâteau, le joyau. On va pouvoir faire quelque chose qui va donner vraiment le look à l'album complet. Comment ça se passe quand eux on leur dit ah ben non, c'est pas vous qui faites la couverture?
Ben, c'est douloureux, forcément. Moi, j'ai une formation dans une école d'art parisienne où c'était une école qui formait, très exigeante, qui formait des directeurs artistiques. Il se trouve qu'à l'époque, la bande dessinée, je n'y pensais absolument plus. De fil en aiguille, j'y suis revenu. Au début du label, on a eu le temps d'évoluer en même temps que le marché. Donc on a tous appris notre métier. Les dessinateurs faisaient leur couverture et le marché a beaucoup, beaucoup changé. Il est devenu très concurrentiel, c'est devenu vraiment une industrie. Et ça s'accélère de plus en plus. On a vu l'apparition en plus des librairies de marchands en ligne comme Amazon. Et la couverture n'est plus une cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est un enjeu vraiment très important. L'image que je donne aux dessinateurs pour vraiment un peu leur faire comprendre pourquoi des fois je leur enlève les couvertures, c'est leur dire, écoute, une couverture d'album, c'est faire la pute. C'est être suffisamment bien excitant pour donner au client l'envie de monter avec toi. Ça ne sert qu'à ça, une couverture. Bien évidemment, il faut que ça donne...
Je suis pas dans la salle, heureusement.
Il faut que ça donne une idée du contenu de l'album, de ce qui va se passer à l'intérieur, mais vu la pléthore de bouquins qui sortent en librairie et qui sont aussi visibles sur Amazon, il faut qu'une couverture donne envie de prendre au lecteur potentiel l'album dans les mains, feuillette les pages, après ça lui plaît pas, il le repose, il le prend. Et pour ça, pour vraiment aller à l'essentiel, pour délivrer un message visuel fort, il faut savoir synthétiser un univers, une idée, un personnage de manière très très simplifiée. Et avec les dessinateurs réalistes, c'est un dessin quand même qui est dans aussi le détail, le souci du détail, voilà, du vécu. Et c'est des gens qui ont beaucoup plus de mal de synthétiser une idée sur une couverture, hein, pas au niveau de la narration, mais sur un visuel de couverture simple que les dessinateurs nouvellement dessinés qui de toute façon évoluent dans des graphismes beaucoup plus simples, donc sont déjà dans la synthèse permanente. Et je me suis rendu compte de ça il y a 10 ans à peu près. J'ai commencé à faire appel à des gens pour les couvertures, spécifiquement, dont Manchu. On peut voir quelques couvertures dans l'expo série B. Et je sais très bien que c'est très douloureux. On a eu avec Mathieu notamment, on s'est un peu pris le chou sur deux, trois couvertures, parce que je sais très bien que c'est injuste.
Il va nous raconter ça.
Mais oui, mais je sais que c'est douloureux. Mais d'un autre côté, l'enjeu est tel. Dans une librairie, vous êtes au milieu de 18 livres. Il faut pouvoir être repéré de suite. Et sur Amazon, votre livre est réduit à cette taille, à la taille d'un timbre-poste, quand vous arrivez sur le site. Si vous n'avez pas une couverture assez percutante, personne ne verra votre album, même s'il est très bon, même si le graphisme est incroyable à l'intérieur. Je vois des fois, je feuillette au hasard de mes visites dans la librairie certains albums avec des couvertures atroces, des albums qui ne seront jamais... Mais c'est vrai, il y a des fois des couvertures atroces, alors que tu te dis que l'intérieur n'est pas si mal que ça, et c'est des bouquins, par moments, des séries qui passent en partie à côté de leur public, tout bêtement à cause d'une couverture ratée. Et il faut hiérarchiser aussi les infos. De plus en plus, comme on peut le voir en ce moment, je sépare les visuels et la typographie. Le nombre de fois où on a une très belle image avec un titre qui arrive par-dessus, qui est complètement illisible, trop compliqué, on comprend rien, on n'arrive même pas à lire le titre de la série. Bon, ben voilà, c'est des images visuelles, c'est des signaux visuels très simples qui sont envoyés dans les lecteurs au travers de formes très simples, de couleurs très simples. Il faut vraiment attirer leur attention le plus possible pour avoir l'occasion de leur balancer le bouquin dans les mains, qu'ils puissent au moins juger par eux-mêmes une fois qu'ils l'ont.
L'avis des dessinateurs là-dessus ?
Moi, je voudrais donner l'avis d'un scénariste sur les couvertures.
Parce qu'en fait,
ce qui est intéressant, c'est que série B, ça a été une suite de rencontres. Alors, comme disait Fred, effectivement, ça a été une suite de rencontres sur ce qu'on a envie de raconter, sur le cyber, sur Gibson, etc. Mais ça a été aussi des rencontres un peu tout aussi importantes sur, par exemple, les couvertures de Manchu. Manchu, il arrive à un moment donné, il commence à faire des quoi. Manchu, on le connaissait, il travaillait depuis belle lurette avec d'autres éditeurs sur d'autres couvertures, mais il commence à faire des couvertures sur Hauteville, en fait, sur Hauteville House. Après, il fait quasiment toutes les couvertures de Jour J et d'Histoire secrète, absolument, et ça colle parfaitement avec le petit groupe qu'on est, c'est-à-dire les deux Fred, Olivier et moi, sur ce qu'on veut faire. On est parfaitement en adéquation avec ce que fait Manchu, et là aussi c'est du bol, quoi. C'est du hasard, on tombe sur la personne qui est capable de nous faire les couvertures qu'on souhaite et qui sont magnifiques au bon moment. Avant, c'était pas possible. Après, ça l'était plus.
Tiens, juste pour le gratter un petit peu, il y a eu des couvertures refusées ?
Alors, il y en a une ou deux, mais c'est moi-même qui me suis tiré dans le pied, parce que je fais les rêves de couverture que je confie après à Manchu ou à Hugo Pinson, qui est un nouveau venu, qui est un Nantais, qui a fait la couverture de Mousquetaire, que vous voyez régulièrement. Et de temps en temps, entre le moment où j'ai fait le rêve qui me semblait très bien et le moment où j'ai eu la peinture finie, même si des fois en plus on fait la post-production sur Photoshop pour vraiment essayer d'avoir un maximum d'impact sur le produit final, de temps en temps, ben oui, j'ai beau connaître les forces et les faiblesses des illustrateurs avec qui je travaille, de temps en temps, oui, je me suis tiré dans le pied, mais c'était complètement ma faute à chaque fois. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2-3 fois, mais voilà.
Donc les dessinateurs,
c'est par rapport aux couvertures, au fait que ce soit pas le dessinateur qui dessine la couverture. C'est un reproche qu'on entend souvent de la part des lecteurs. Moi, personnellement, je travaille pour un album, quoi. Parce que là, en l'occurrence, pour les couvertures que Manchu a fait ou Hugo, jamais j'aurais pu arriver à un tel impact ou un truc comme ça. Donc mon ego à moi, je le travaille chez moi, je fais des dessins, et puis voilà, quoi. Là, on joue pas la vie d'un livre sur j'ai envie de faire la couverture. Là, en l'occurrence, on n'est pas loin du caprice, quoi. Donc, non, moi je travaille pour le livre en équipe, et puis voilà.
Pareil.
Merci. C'est un copain de Manchu, il est aussi prolixe. Non, mais en même temps, on peut comprendre que certains lecteurs se sentent. Peut-être qu'ils n'ont juste pas compris que la couverture, c'était pour déclencher l'acte d'achat. Mais effectivement, on entend régulièrement le lecteur qui est déçu par rapport à la couverture, qui est déçu de l'intérieur.
Ouais, mais c'est pas le même
livre.
Travail. Ouais.
Moi,
mais
je vais vous dire, depuis dans série B, à la limite, ce qu'on nous a le plus reproché au début, c'était qu'il y avait plein de gens qui travaillaient sur les albums. Ça a été vraiment incroyable. Alors on a expliqué dans les premiers temps que sur Tintin, il y avait 17 personnes qui travaillaient, mais qu'il n'y avait qu'un nom sur les couvertures. Nous, on a, je crois, avec série B, on était dans les premiers. Et j'en suis assez fier parce que l'idée n'est pas de moi, c'est Fred et Olivier qui avaient imposé ça, de citer les coloristes sur les couvertures par exemple. Donc voilà, on est toujours dans la communauté de projet en fait, et on y tient. On nous a souvent reproché des choses qui au final se sont banalisées, voilà.
Oui, ces reproches-là viennent de la méconnaissance en fait, parce que si c'était une personne qui faisait tout, tu aurais un album tous les 5 ans.
Oui, ou enfin, je crois qu'il y a toujours quelque chose à redire, ou voilà. Mais moi, bon, voilà, les couves, je trouve que, enfin, c'est pareil. Manchu, on l'a rencontré. C'est normal. On était dans une communauté de pensée. Enfin, on n'aurait pas fait faire les couvertures à de brillants dessinateurs de l'association, qui sont très bons dans leur genre. Mais oui, voilà, Manchu, c'est cohérent. Quand Manchu a fait les couvertures de Hauteville House, je trouve qu'il a donné il a synthétisé, c'est ce que Fred a dit, il a synthétisé l'esprit de la série. C'est ça qui est important. Et là, sur Mousquetaire, Florent aurait fait une très bonne couverture, mais elle n'aurait pas été celle d'Hugo Pinson. Et Hugo Pinson, lui, il amène un avis extérieur, un peu comme le coloriste, par moment aussi, peut amener un avis extérieur sur le travail d'un dessinateur. Tout ça, c'est vraiment une question de dosage d'ego et d'accepter de la collaboration. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à aimer les démiurges, les gens qui font tout. Nous, on a pris une autre voie. Et nous, les scénaristes, heureusement qu'il y a des gens pour cette autre voie, parce que sinon, vu qu'on n'est pas capable de dessiner, on ne serait pas dans la BD.
Des questions dans le public ? Bon, tout a été dit alors. Pas de questions ? Au revoir. Ou ils attendent peut-être. C'est la digestion.
Je pense qu'ils
peut-être.
Attendent le reste.
C'est la digestion. Alors, donc l'avenir de série B. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'exposition en fait ? Pourquoi un tel vaisseau spatial posé au milieu des Utopiales ?
Parce qu'il y avait la place. Tout bêtement. On était sur les 20 ans.
Tu peux peut-être citer.
Oui, alors c'est
un cher collaborateur.
C'est un projet que j'ai lancé de manière un peu inconsciente l'année dernière. Je me disais qu'il me semblait important de fêter les 20 ans du label au sein d'un festival qui mélange vraiment la littérature, les sciences, les jeux, parce que la bande dessinée fait partie de ça. On a beaucoup de festivals en France qui ne sont consacrés qu'à la bande dessinée. Je trouve ça un peu consanguin au bout d'un moment. Bon, ben là, c'est une autre communauté d'esprit, mais qui brasse vraiment des intérêts complètement divers. Donc, on n'est plus au centre, on est presque un peu à la marge par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude. Mais il me semblait important de fêter les 20 ans du label ici. D'abord parce que c'est un label qui s'est bâti sur beaucoup de séries de genre qui allaient vers la science-fiction. Et puis aussi parce que je me dis que c'est un festival incontournable, c'est un peu le Hellfest de la science-fiction. Et il fallait y
les
être.
Cheveux en moins.
Voilà. Et puis j'ai lancé l'idée. À ce moment-là, on m'a dit c'est très bien, mais tu vas le faire toi-même. Et alors j'ai été soutenu par les Utopiales, par les éditions Delcourt, et surtout j'ai bénéficié de l'expérience d'un menuisier génial, d'un créateur qui s'appelle Christian Lemel de la société AG Décor, qui m'a aidé à concevoir tout ça et à le bâtir. Et je l'en remercie chaleureusement parce que les 160 mètres carrés que vous avez derrière vous, sans lui, ça n'aurait pas été possible. C'était un peu mon copilote sur le projet.
Ben, je vous invite donc à refaire un tour dans ce vaisseau spatial donc des 20 ans de série B. Après cette discussion, vous en connaîtrez un petit peu plus. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir accordé votre temps. Et puis, on se retrouve pour les 30 ans. Merci.